à l'instant.
Le droit et nous, dans le plus de la grande matinale, avec Aliutal sur Africa Radio.
Bienvenue à tous. Réponse aux questions des auditeurs. La parole est à vous. Nous répondons aux questions posées par des auditeurs sur l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, le regroupement familial, le droit d'asile et la naturalisation. Vous pouvez participer aux échanges en posant vos questions sur tous ces points que nous abordons aujourd'hui. Je rappelle le numéro de téléphone pour nous appeler en direct. 01 55 07 58 00 partout à travers la France. Et si vous êtes à l'étranger, enfin, si vous êtes sur le continent, précédé du 33. Bonjour Aliutal.
Bonjour Phil.
Alors sans tarder, voici la question de Pierre. Pierre depuis la région parisienne. Quel conseil nous donnez-vous pour défendre nos droits lorsque nous-mêmes ou un de nos proches sommes confrontés à une OQTF, une obligation de quitter le territoire français?
Question intéressante parce que ça nous permet de clôturer la problématique qu'on avait abordée la dernière fois, à deux reprises d'ailleurs, avec des questions très intéressantes de nos auditeurs sur la question de l'obligation de quitter le territoire français. Effectivement, on n'a pas eu le temps de développer un aspect qui renvoie à la question de Pierre, ça veut dire quels sont les droits de l'étranger qui est confronté à cette OQTF, ou bien, comme il a bien dit, parfois ce n'est pas vous, c'est membre de votre famille ou bien un ami, un proche. Il faut quand même savoir quelles sont les règles de protection qui relèvent du droit international, qui relèvent parfois des conventions bilatérales entre votre pays d'origine et le pays où vous vous situez, en l'occurrence pour Pierre, la France, et aussi qui relèvent du droit français en tant que tel. Il y a des questions de droits humains, ça veut dire des questions de droits fondamentaux. Quand on parle de droits humains, c'est que c'est vraiment inhérent à la personne humaine. Mmh. Les États doivent respecter vos droits à ce niveau-là et ne peuvent pas transgresser ces droits en application de leur loi nationale. Il en est ainsi, par exemple, de la liberté d'aller et de venir. Ça veut dire que si on doit vous priver de votre liberté d'aller et de venir, ça veut dire qu'il doit y avoir une action pénale, une transgression d'une règle pénale. Or, dans certains pays européens, dans la majeure partie des pays européens, on peut retenir un étranger, lui priver des libertés parce qu'il n'a pas de titre de séjour. La question qui va se poser est de savoir est-ce que le fait d'être sous le coup d'une OQTF justifie qu'on vous prive des libertés. La question n'est pas tranchée. Les pays européens disent que oui, on ne va pas vous mettre en prison, mais on va vous mettre dans des centres de rétention administrative.
Ouais.
Dans ces centres, vous n'avez pas le droit d'aller et de venir. Pour d'autres, c'est une prison. À partir du moment où je n'ai pas le droit d'aller et de venir, je suis enfermé et que la police me surveille, même si après il y a un certain allègement, je peux téléphoner, je peux manger, dans certaines prisons, c'est pareil. Donc la question est très litigieuse à ce niveau, mais il faut savoir que comme il y a cette privation, maintenant vous avez beaucoup de droits. Et il y a un juge des libertés qui est chargé de veiller à ces droits-là pour éviter un éloignement. Je donne un exemple, quelqu'un qui a le droit fondamental à une vie privée familiale. C'est un droit qui est consacré par les textes internationaux. En Europe, c'est consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. À ce titre-là, on ne peut pas vous éloigner si le juge se rend compte que l'administration va violer ses droits fondamentaux, par exemple, en vous séparant de votre femme, de vos enfants, ou bien même du fait que l'ancrage sociétal que vous avez est uniquement ici et que vous risquez d'être dans un isolement familial en cas de retour dans votre pays d'origine.
Alors très rapidement, à Lutel, j'aimerais qu'on parle un peu des conditions justement lorsqu'on est expulsé du territoire français. Moi, j'ai été frappé par une vidéo que j'ai reçue sur WhatsApp, à un monsieur qui est attaché avec du plastique pour l'empêcher justement d'effectuer des mouvements pendant son expulsion. Est-ce que ces conditions-là aussi devraient être condamnées?
Effectivement, devraient être condamnées et sont condamnables d'ailleurs. Et sont condamnées d'ailleurs. Sont condamnées parce que si vous avez l'assistance d'un avocat, l'avocat peut invoquer cet état de fait. Parce que ce sont des traitements inhumains et dégradants.
Ouais, par des policiers en plus.
Bah oui, effectivement, des policiers. Par contre, malheureusement, eux n'agissent pas pour eux. C'est des ordres, vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est l'administration, l'État lui-même qui permet cela. Le policier ne va pas agir s'il n'y a pas un cadre juridique légal qui lui permet d'agir ainsi. Ou bien une volonté politique. Suivant le gouvernement en place, les gens qui parlent d'immigration zéro, heureusement qu'ils sont pas encore au pouvoir, ça veut dire que ça devrait être une monnaie courante. Ça arrive parfois, heureusement rarement, mais ça arrive. Et quand ça arrive, il faut savoir que c'est contraire à votre droit fondamental, à une intégrité physique. C'est contraire à votre dignité humaine.
Humaine, ouais.
Et aussi, c'est un traitement dégradant. De ce fait, c'est contraire aux dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce sera le cadre sur lequel devrait s'appuyer votre conseil pour éviter votre éloignement en essayant de démontrer que la procédure, elle est nulle, comme l'a bien soulevé Phil. C'est très important. On peut anéantir une procédure de ce seul fait.
Exact.
Bâillonner. Voilà, vraiment.
Bâillonner avec du plastique.
Avec du plastique, carrément, ouais. Maltraité, même dans l'avion, parce qu'il y a des. Ils veulent que vous soyez tranquille pour ne pas gêner les autres passagers. Parce que le commandant de bord, lui, quand il voit que la sécurité n'est pas assurée dans l'avion, il est tenu, lui aussi, de ne pas dérouler.
Exact.
Donc, de ce fait, ça crée un problème. Les gens peuvent bloquer des procédures d'éloignement de ce seul fait. Donc, avant de donner la parole aux auditeurs, on va quand même. Cette question-là, qui est très importante. Ça, c'était de manière globale. Mais précisément, il faut aussi leur dire que, dans ce qui concerne la France, ce qui permet cette OQTF, on l'avait rappelé, c'est l'article L511-4 du Code des étrangers, avec aussi une intervention de la loi du 7 mars 2016, qui l'a aussi rendu beaucoup plus difficile, parce que dans la mesure où on peut même vous placer en résidence surveillée avant de vous éloigner. Mais notez que certaines catégories d'étrangers ne peuvent pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il en est ainsi d'un enfant qui a moins de 18 ans. Une personne qui a de moins de 18 ans ne peut pas faire l'objet d'une OQTF parce qu'elle ne peut pas avoir un titre de séjour déjà.
Moins de 18 ans,
d'accord. Effectivement. Enfin, il y a des exceptions. Si on voit que c'est la famille de manière globale, on vous dit qu'en vous éloignant avec votre famille, mais un enfant isolé, un mineur isolé de 18 ans ne peut pas être expulsé par rapport à une OQTF parce que ce mineur ne peut pas avoir du tout un titre de séjour en France. Aussi, un étranger qui justifie par tous les moyens qu'il réside en France depuis qu'il a atteint l'âge de 13 ans. Ça veut dire que de facto, ça vous donne un droit à une régularisation. Mmh. Donc, vous êtes majeur, mais depuis 13 ans, vous étiez là, mais de manière habituelle. Quand on dit habituelle, ça veut dire de manière irrégulière.
Ouais.
Et là, vous êtes protégé contre l'éloignement. Il faut bien retenir cela parce qu'il y a des personnes qui peuvent être concernées, à qui on a confié des enfants ou des personnes qui sont elles-mêmes concernées parce que depuis 13 ans étant là, les parents n'ont pas eu la possibilité de leur accorder, de leur permettre d'avoir ce type de séjour ou ont été négligents. Dans ce cas de figure, sachez que cet enfant-là ne peut pas être éloigné, quelle que soit la procédure.
Ouais.
Ou bien même ce futur adulte, parce qu'il a été enfant, mais il est devenu adulte. Il en est de même de l'étranger qui réside aussi régulièrement en France depuis qu'il a eu plus de 10 ans. Et la loi dit que sauf s'il a été pendant cette période, depuis plus de 10 ans, sauf s'il a été pendant cette période titulaire d'un titre de séjour portant la mention étudiant. Mmh. J'ai été à Strasbourg ce week-end, j'ai donné une conférence, et un étudiant m'a posé la question, à savoir qu'on lui a dit que il a fait 10 ans ici en France, il va à la préfecture pour avoir maintenant un titre de vie privée familiale, changer de statut de celle fait.
Ouais.
Et qu'on lui a dit non et que c'est illégal. Il s'est emporté. J'ai dit non, monsieur. Il me dit oui, mais je l'ai lu sur Internet. Quand on fait 10 ans en France, on peut être éloigné.
Ouais.
Et même après, j'ai été voir une association, on me l'a confirmé, monsieur Tal. J'ai dit oui, mais moi, je ne vais pas vous dire ce que vous voulez entendre. Mm-hmm. Je vous dis ce que la loi dit.
Exact.
Or, au regard de la loi, votre situation administrative en tant qu'étudiant étranger est une exception. Vous êtes dans une précarité.
Mmh.
Et la loi dit expressément que vous ne faites pas partie des catégories d'étrangers qui sont protégés contre un éloignement, même si vous avez vécu plus de 20 ans, 25 ans en France.
Mmh.
Ça suppose que vous avez été pendant 25 ans étudiant. Il y avait des étudiants professionnels, je me rappelle, dans notre temps.
25 ans d'études, waouh.
Il y avait un monsieur que j'appelais l'étudiant parce qu'en fait, il était tout le temps à la fac.
Ouais.
Pendant 10 ans, il prépare la licence. Je dis, il y a des cas de figure comme ça avant. Maintenant, c'est le plus possible. La préfecture va retirer votre titre de séjour. Mais ça peut arriver que cet étudiant en doctorat, avec les permissions qui lui ont été données, ait pu faire 10 ans en France avec un titre de séjour, même peut-être avec la partie qui concerne sa scolarité au collège. Mais il faut retenir que si vous êtes étudiant, personne ne doit vous dire que vous êtes concerné par rapport à cette possibilité d'avoir un titre de séjour parce que vous avez vécu en France pendant 10 ans. La loi dit, sauf si vous avez été titulaire d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention étudiant. Il en est de même de l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 20 ans. Ça, c'est très important.
Ouais.
Régulièrement. On a bien dit régulièrement. Ça veut dire que vous avez eu des titres de séjour. Parfois maladie, après ça a changé. Vous avez été marié avec votre conjoint ou votre conjointe. On vous donne un titre de séjour vie privée familiale, mais sous le prétexte du mariage. Ensuite, vous revenez encore avec un autre titre de séjour salarié. Et du coup, vous perdez votre titre de séjour. Si ça s'est cumulé pendant une période de 20 ans, on ne peut plus vous éloigner de la France. Vous êtes de la France, vous n'êtes pas en France. La différence, c'est que vous faites partie de la France. Ouais. Quel que soit Alpha, l'administration est obligée de vous régulariser. On va prendre un auditeur, après on continue sur ces éléments qui sont vraiment importants parce que c'est des garde-fous qu'on doit passer dans la communauté pour que les gens puissent le savoir. Avant même d'aller voir un spécialiste, un avocat, il faut être au courant de ces mesures de protection.
Voilà, vous êtes déjà nombreux à composer le 0155 0758 00. Avant de prendre Roland, nous allons marquer une pause et on revient juste après. Ne bougez surtout pas, c'est Le Droit et Nous.
Le Droit et Nous, dans le plus de la grande matinale, avec Aliutal sur Africa Radio.
Bienvenue à tous, si vous arrivez à l'instant, Le Droit et Nous, la parole est à vous, chers auditeurs. Nous répondons aux questions posées par vous à propos de l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. On parle également du regroupement familial, le droit d'asile et la naturalisation. On va commencer par Roland qui est en ligne. Bonjour Roland.
Bonjour Phil.
Bienvenue Roland, nous vous écoutons.
Bonjour Roland.
Bonjour monsieur Lucas. Voilà, moi ma question est, mon épouse, toute sa famille a été naturalisée très tôt. Elle était avec eux ici à l'âge de 7 ans. Et ils n'ont pas inclus dans la demande. Pour des raisons, je pense, familiales. Aujourd'hui, je voudrais savoir comment elle peut faire pour pouvoir acquérir cette nationalité, parce qu'ils sont tous déjà français. Son père, sa mère, ses frères, tout le monde est déjà français.
D'accord. Et elle est là depuis son âge de 7 ans. Depuis quel âge de 7 ans?
Depuis 7 ans, elle était à l'école ici. Ils sont venus tous ensemble, mais elles, ils ne l'ont pas inclus. Bon, je pense que c'est pour des raisons. À un moment donné, il y a eu des soucis, je pense. Je pense que ça doit être pour ça. Mais aujourd'hui, ils sont tous français et pas elle.
Très bien. Et en fait, la famille a été naturalisée. À partir du moment où la famille a été naturalisée et que cet enfant n'a pas été mentionné dans le décret de naturalisation de sa famille, cet enfant ne peut pas être naturalisé du fait de ses parents. Ça veut dire qu'il n'y a pas une déduction. On ne peut pas déduire une nationalité de cette personne par la naturalisation de ses parents qui, pour des raisons quelconques, n'ont pas décidé de l'intégrer dans le décret de la naturalisation. Maintenant, si la reconnaissance était postérieure, si ça veut dire qu'en ce temps-là, les parents n'avaient pas reconnu la filiation, ils peuvent demander la modification de leur décret de naturalisation pour intégrer leur enfant. Mais dans l'hypothèse que vous invoquez, cette fille était déjà reconnue comme telle, ça veut dire comme étant la fille de ses parents. Sauf qu'ils ont décidé de ne pas l'intégrer. C'est ça la question, n'est-ce pas, hein?
Oui, elle faisait partie de la famille dans tous les documents.
Très bien.
Elle est dans la famille, comme dans la fille, la fille, voilà.
Très bien. Donc, la filiation était déjà établie au moment de la naturalisation de ses parents. C'est le cas, n'est-ce pas?
Oui, avant même la naturalisation.
Voilà, a fortiori. A fortiori. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité sous cet angle-là. Il faut l'écarter. D'accord? Maintenant, il faut qu'elle demande la naturalisation de son propre chef, par elle-même. Et l'avantage, c'est qu'elle est née ici. Les enfants mineurs.
Non, elle n'est pas née ici.
Non, attends pour moi. Elle a grandi ici.
Elle a grandi ici.
Attends pour moi. Elle a grandi ici jusqu'à de 7 ans à 25 ans. La loi a changé. On demande aux préfectures maintenant de présumer que ces personnes sont assimilées à la culture française. Or, la loi dit que nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas assimilé à la culture et aux us et coutumes de la France. Ce qui implique, par exemple, les contrôles du niveau de langue, ce qui implique l'entretien d'assimilation, elle sera exonérée par rapport à cela. Si elle a des modifications de substance, sa demande de naturalisation risque de passer comme une lettre à la poste. Ce sera très facile pour elle. Donc, il faut qu'elle passe par elle et que vous oubliez toute tentative d'essayer de déduire une nationalité du fait de la naturalisation de ses parents, ce qui ne pourra pas avoir lieu.
Exact.
Ça vous permet de gagner du temps. Parce que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va vous dire que c'est possible. Or, quand ce n'est pas possible, il faut dire que ce n'est pas possible. En l'occurrence, ce n'est pas possible.
D'accord.
C'est bon, Roland?
Quand ils vont demander le document, ils verront bien que ses parents sont français déjà.
Oui, mais il n'y a pas de problème. Mais je vous dis que c'est pas parce que ses parents sont français qu'elle pourrait être française. Pour elle, pour ce qui la concerne.
D'accord.
Pour d'autres personnes, il y a une possibilité. Pour elle, ce n'est pas possible. Il faut qu'elle se débrouille à devenir française par elle-même avec les avantages reconnus par la loi du fait qu'elle a grandi ici pendant tout ce temps-là. Et donc là, effectivement, la condition d'assimilation étant présumée, il reste une seule condition de revenu. Sur une période de référence de 12 mois, si elle a travaillé ou bien qu'elle a eu des droits au chômage, elle va être naturalisée.
D'accord.
Okay.
Voilà, merci beaucoup Roland.
Merci beaucoup.
Merci.
Passez une bonne journée, on va prendre un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour.
Oui.
Bonjour.
Oui, bonjour monsieur Aloutal.
Bonjour monsieur.
Oui. Ouais.
Présentez-vous.
Je suis monsieur.
Carte d'identité, carte de séjour.
Ou nationalité.
Ah, ce sera la future émission, hein. En direct, carte d'identité, carte de séjour, présentez-vous.
Présentez-vous,
il n'y aura pas de problème.
Allez-y, nous vous écoutons.
Vous vous appelez comment?
Bon, je m'appelle Hervé. Hervé. Ouais.
Bonjour, ouais. Hervé.
Bonjour, Hervé.
Bonjour, monsieur Aloutal. Oui. Ben, je vis avec ma femme, ça fait aujourd'hui 5 ans. Mm-hmm. Ben, nous avons 3 enfants, 2 enfants. Bon, le troisième est encore dans le ventre.
Ah, d'accord, ben, mais en chemin.
elle n'a pas de papiers. Mm-hmm. Mais nous voulons entamer une démarche pour. C'est pour qu'elle puisse avoir, elle puisse être régularisée. Mm-hmm. Ben, on ne sait pas par rapport à l'OQTF. Mm-hmm. Par rapport à l'OQTF, mm-hmm. Je ne sais pas.
Elle a reçu jamais... l'OQTF ?
Non, jamais. Parce que après, on ne sait pas si dans l'adresse, dans son ancienne adresse, on avait envoyé. Mm-hmm. Parce que c'est sur FTDA, ben, à FTDA, il y a à un certain moment. Quand la personne n'a plus de récépissé, on peut plus recevoir ses courriers.
D'accord.
Bon, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut faire pour savoir si elle avait l'OQTF ou pas.
D'accord. Parce qu'elle avait fait une demande d'asile.
Oui.
D'accord.
Mais elle a été refusée.
Ça a été refusé. Très bien. Voilà. Maintenant, vous ne savez pas s'il y a une OQTF ou pas.
Question, exactement.
Question intéressante. Parce qu'effectivement, parfois, l'OFRA peut refuser. Le droit d'asile, la CNDA, ça veut dire la Cour nationale du droit d'asile, peut refuser votre recours sans pour autant que la préfecture ait délivré une OQTF. Et comme vous l'avez dit, c'est une question intéressante parce qu'après, ces associations qui vous donnent la domiciliation ont tendance de plus en plus à bloquer l'accès à votre domiciliation dès que votre procédure a été refusée.
Exactement.
Ce qui signifie qu'il y a une période quand même assez délicate. Il faut prendre la diligence de solliciter immédiatement l'OFRA ou la CNDA pour déterminer votre nouvelle adresse afin que vous puissiez, et même la préfecture qui vous a délivré le récépissé, pour que la réponse vous soit délivrée là-bas. Il appartient à l'étranger de prendre cette diligence. Ce que vous êtes en train de dire, ça arrive à beaucoup d'étrangers qui parfois ne savent pas, ou bien parfois qui se rendent à la préfecture, on leur dit vous êtes sous le coup d'une OQTF. Ils ne l'ont jamais reçue parce que l'ancienne adresse Coalia ou FT France Terre d'Agile a été bloquée. Et ça, c'est vraiment fastidieux. Il faut que le problème soit résolu par les associations. Ça cause un tort à beaucoup d'étrangers. Maintenant, ce qu'il faut faire, si ça vous arrive, la première diligence, c'est d'écrire à la préfecture, carrément pour savoir quelle est, éventuellement, vous y allez d'abord, si on vous dit qu'il y a une OQTF, l'OQTF, vous n'avez pas reçu cela, ils vous donneront une adresse que vous allez utiliser, vous les écrivez, ils vont vous donner une copie de l'OQTF éventuellement. Maintenant, si c'est avéré qu'il y a du temps qui s'est passé, par exemple, plus de 12 mois, globalement, on dit qu'il n'y a plus d'OQTF, mais ça veut dire que cette OQTF ne peut pas être exécutée en l'état. Il n'y a plus d'obstacle pour réintroduire une demande. Est-ce qu'il s'est passé 12 mois depuis le rejet de la demande de séjour de votre épouse?
Ça fait plusieurs années.
Plusieurs années. Donc, si ça fait plusieurs années, même je vous demande, la question est résolue. Il ne faut pas aller au-delà parce que même si vous trouvez la réponse, ce n'est pas grave parce que votre objectif n'est pas de refaire une demande d'asile. Voilà, parce qu'en ce sens, ce serait bien de savoir quel est l'argument qui a été invoqué dans le cadre de l'OQTF. Mais vous, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que l'OQTF risque de constituer un blocage dans la perspective d'une nouvelle demande. Non, elle n'est plus un blocage du tout. Vous pouvez réintroduire une nouvelle demande, cette fois-ci de titre de séjour, parce qu'avant, ce que vous aviez fait, c'était une demande d'asile. Et maintenant, il faudra aussi invoquer, vous, le rapport que vous avez dit femme. Dans femme, il y a beaucoup de choses. Ça peut dire compagne, ça peut dire paxé, ça peut dire marié. Est-ce que vous êtes marié civilement ou pas?
Non. On vit toujours en concubinage.
Mais quand même. Mais il faut se dépêcher, il faut épouser. Hein, vous attendez quoi? Oh là là.
Il lui dit que j'attends les millions d'euros. Ah. D'accord, avant pour donner la dot.
Attendez pas d'être riche, hein. Allez, passez la bague au doigt rapidement.
Donc, Hervé, au-delà du conseil de M. Phil, si vous décidez quand même malgré tout de rester en l'état, peut-être que c'est le cas, je vous donne d'autres conseils au regard du droit.
Non, malgré nous avons des enfants, ben, si elle a l'OQTF, ça peut être compliqué, c'est ça?
Non, je venais de vous dire que l'ancienne OQTF, il ne faut pas calculer cela, ça ne constitue pas un obstacle. Il faut vous préparer à introduire une nouvelle demande maintenant de titre de séjour au regard des liens intenses qu'elle a ici, parce qu'elle a 2 enfants, je ne vais pas dire et demi, mais c'est 3 enfants.
Exact.
Parce que même l'enfant qui n'est pas encore né en droit, on le considère comme étant né. Infants conceptus pronato abitur, ça veut dire que l'enfant... conçue et considérée comme née à chaque fois qu'il y va de son intérêt.
D'accord.
Donc ça veut dire que depuis 300 jours avant sa conception, votre troisième enfant, vous avez dit 3 tout à l'heure, même il y a eu un lapsus, mais c'est 3, en droit, vous n'êtes pas trompé, en droit c'est 3, vous comprenez ?
D'accord.
Regardez leurs intérêts juridiques, il faut dire qu'il y a 3 enfants, l'enfant conçu a une personnalité juridique et il y va de son intérêt d'avoir sa mère qui le porte selon que c'est un enfant, c'est un garçon ou une fille, et donc vous avez cette possibilité. Donc je vous conseille de vous solliciter ce titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour pour l'intensité des liens qu'elle a ici. D'abord, le lien conjugal, même si vous n'êtes pas marié, vous avez le lien conjugal, il faudra déterminer que vous avez une vie commune effective et affective. Vous dormez sous le même toit, de toute façon, comme il y a des enfants, il n'y a pas de problème pour prouver que la liaison est consommée.
Ouais.
Parce que, c'est pas,
donc, et qu'elle soit présente sur les justificatifs de domicile.
Et, très bien. Et aussi, surtout, tout ce qui est scolarité, s'il y a un enfant qui est à la crèche ou bien un enfant qui est scolarisé, vous en avez deux.
Elle est scolarisée, ça fait un an parce qu'elle n'a pas été à la crèche. Bon, c'est ce qu'on nous dit toujours. Donc, comme elle n'est pas encore, elle n'a pas scolarisé trois années. Mmh. Donc, elle ne peut pas demander encore.
Ça, c'est pas bon, ça. Ce qu'on vous a dit, c'est pas bon. Le danger, c'est qu'il y a des gens qui sont des pseudo-experts qui vous font des raccourcis et qui vous trompent. Ce que vous êtes en train de dire, c'est une circulaire du 28 novembre 2012. Qui donne des indications sur l'application d'une disposition légale qui est l'article L313-14 du Code des étrangers. C'est juste un canevas, une trajectoire. On vous parle de ça, on vous évite des autres trajectoires.
Donc, elle peut demander les papiers là.
Ah oui, elle peut demander, elle n'a pas besoin d'utiliser.
Pour quel... Là, je suis en train de les noter.
Oui, mais ce n'est pas une consultation pour vous, monsieur.
Je suis en train de donner des questions. On a beaucoup d'auditeurs qui veulent passer à l'antenne.
Quand je parle à la préfecture, par exemple, un parent français, quand il parle à la préfecture, il dit, je viens de demander le formulaire.
Ça va être compliqué de vous garder, monsieur. Je suis vraiment désolé.
D'accord.
Vous allez pouvoir appeler.
Mais j'allais poser une deuxième question.
Non, c'est pas possible parce que nous avons.
J'ai un an.
Non, ça va pas être possible. Mais je suis vraiment désolé parce qu'il faut qu'on enchaîne avec. Mais par contre, on donnera le numéro de téléphone.
Très bien. Hervé, votre question est intéressante, mais pour votre femme, faites attention. On vous a dit des informations qui ne tiennent pas du tout et vous avez une possibilité pour elle. Et après, vous nous appellerez pour vous, ce qui vous concerne. Mais néanmoins, il faudra diligenter la procédure. Il y a beaucoup de chemin.
On peut pas vous garder. Plus de 3 minutes. On va donner la parole à l'os de Bing, c'est ça? L'os de Bing.
Oui, bonjour Phil.
L'os de Bing.
Oui, bonjour Phil.
Bonjour et bienvenue.
Bonjour l'os de Bing.
Bonjour, merci Monsieur Alou.
Bonjour Monsieur Alou.
Mais j'ai deux petits problèmes là. La dernière fois, je devais être à votre convention du 21 décembre.
21 décembre, oui.
Ouais, j'ai pas eu le temps. J'ai envoyé plusieurs messages, mais j'ai pas eu de suite. Et là, même mercredi dernier, je vous ai envoyé un message, mais je n'ai pas eu de suite. Bon, j'ai deux questions, j'ai une question.
Juste une pause pour donner une information, une bonne information. Ce que vous appelez convention, en fait, la rencontre qu'on a eue, ce forum sur le droit des étrangers.
Oui.
Et on va réitérer cela le 7 mars. Phil va en parler tout à l'heure.
Ouais.
Le 7 mars.
Le 7 mars,
le 7 mars prochain, même endroit, on va le faire, dans le même théâtre. Et que l'inscription sera toujours donc, obligatoire.
Par SMS.
Par SMS, pour essayer donc, de cadrer. Et de bien accueillir, parce que la dernière fois, malgré la grève, les gens sont venus massivement. S'il n'y avait pas ça, on allait mal vous recevoir. Donc, c'est pour bien recevoir et savoir qui vient. Donc, appel à tous les auditeurs. Nos auditeurs d'Africa Radio sont nos priorités d'abord. Mais envoyez un SMS disant que vous voulez vous inscrire à la rencontre sur le droit des étrangers, la nationalité, le regroupement familial et toutes les questions de la famille. Et cette journée est dédiée à la femme et à la famille parce que c'est la veille du 8 mars.
Voilà, de la journée internationale des droits des femmes.
Voilà, questions matrimoniales, questions donc le regroupement familial, de réunification familiale, de droits des enfants, toutes ces questions, on va les traiter. Je ne serai pas seul, il y aura même d'autres intervenants d'associations qui vont intervenir sur des problématiques qui concernent la famille.
J'y serai.
Donc voilà. Donc là, allez-y. C'est juste une invitation à vous et à tout le monde. Maintenant, posez votre question et puis on va vous donner la réponse.
En fait, moi, j'avais eu un OQTF en 2012. Parce que j'avais tout, quand je suis arrivé, j'ai pas demandé l'asile, j'ai fait une demande normale en tant que travailleur, et ça m'a été refusé, moi-même, dans le QTF, mais j'ai pas fait de position. Je sais pas, les restes sont toujours en vigueur ou pas?
Depuis 2012?
Ouais.
Non, du tout. L'OQTF est exécutable pendant les 12 mois qui suivent. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu d'OQTF, hein. Contrairement à ce qu'on dit dans la communauté, il n'y a plus. Ça saute au bout de 12 mois, ça ne veut rien dire. Parce que vous ne faites rien, vous ne faites pas une demande pour régulariser votre situation, une deuxième OQTF peut entraîner une interdiction du territoire. Ça veut dire que c'est très grave. Or, il est dit dans la communauté que l'OQTF, au bout de 12 mois, ça saute.
Toujours un an.
Au bout d'un an. Mais quand j'entends ça donne des frissons parce qu'on met en danger la personne. Vous, si vous êtes du Côte d'Ivoirien, aujourd'hui, si vous êtes là, vous allez manger du attiéké. Non, c'est légal. Donc, c'est légal, ça, du Tchéboudjian. Donc, il faut faire attention, ouais, de ne pas écouter les gens dans la rue et dans les communautés.
Ah oui.
Quand vous faites
le rapprocher des spécialistes.
Vous devez vous débrouiller pour réintroduire une demande pour régulariser votre situation. Mmh. La loi vous dit que vous devez présenter soit un titre de séjour, soit attester que vous avez fait une demande. Et ça, ça vous protège. Donc, vous êtes dans la logique de faire une demande, il faut le faire si vous êtes dans cette logique. Et moi, je vous le conseille.
Oui, bon, en fait, ma deuxième question, c'est vu que moi, la dernière
fois,
voilà, que je voulais. Ouais, en fait, vu que j'ai fait 10 ans de présence, et avec 10 ans de présence, comme vous l'avez dit dans la communauté, on nous dit avec des preuves, on peut y aller se présenter à la préfecture ou à une association. Donc, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus.
Très bien. Effectivement, c'est toujours sur la base des motifs humanitaires. On considère que quand on a vécu en France pendant 10 ans, c'est un motif exceptionnel d'admission au séjour sur la base de l'article L313-14 du Code des étrangers. Avant, avec 10 ans, c'était automatique. Moi, quand je venais d'arriver ici, 3 jours après, j'étais dans un cabinet d'avocats et on régularisait les gens. Et en ce temps-là, c'était automatique. Il n'y avait pas encore Nicolas Sarkozy. Dès que vous avez 10 ans, obligatoirement, vous l'avez. Nicolas Sarkozy, en tant que ministre de l'Intérieur, a enlevé l'automaticité. Maintenant, c'est au cas par cas. Néanmoins, il y a une garantie qui a été ajoutée par cet article-là. Ça veut dire que si vous avez 10 ans, faites attention, il faudra prouver année par année que vous êtes là.
Ah, ça veut dire...
S'il vous manque, par exemple, pour une année, quelques preuves...
Non, j'en ai tout, j'ai tout.
Oui, mais je ne parle pas au-delà de vous. Je donne des conseils après pour tout le monde. Écoutez bien ce que je dis, mais au-delà de vous. D'accord, si vous avez tout, c'est très bien. Mais il y a des gens qui n'ont pas tout. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont tout aussi, alors que les preuves que vous avez, vous avez remplies avec des factures là, qui sont des preuves de troisième catégorie, qui n'ont pas de force probante. Ça veut dire que vous avez tout, c'est béton, mais ce n'est pas lourd. Ça veut dire que c'est léger.
Dans ce cas,
il faut faire très attention. Il faut qu'un expert regarde bien quelle est la valeur de ces preuves-là avant que vous ne partiez à la préfecture. Quel est le danger? Vous y allez, on prend votre dossier. On ne vous donne pas de récépissé, ce n'est pas obligatoire sur la base d'une demande de titre de séjour avec des 10 ans de présence en France. Vous attendez, vous recevez une lettre d'OQTF. Et là, vous êtes perplexe. Et on ne vous a même pas convoqué devant la commission de titre de séjour. Or, la loi dit que s'il est avéré, si vous avez établi que vous étiez en France pendant 10 ans, le préfet ne peut aucunement dire non sans vous convoquer devant la commission de titre de séjour. Et dès cette convocation, vous avez droit automatiquement à un récépissé vous permettant de séjourner en France jusqu'à ce que la commission se prononce. Et pour cela, il faudra faire attention sur la composition de votre dossier, sur la lettre de motivation. D'où l'intérêt de contacter un spécialiste, une association ou un juriste. D'accord?
Voilà. Los de Bang.
Ok, merci.
Merci que vous êtes édifié.
Bonne journée.
On va donner la parole à Youssouf. Est-ce qu'il est là, Youssouf?
Oui, je suis là. Bonjour.
Bonjour Youssouf. Bienvenue.
Bienvenue, maître.
Bonjour Tal. Youssouf.
Oui. Nous vous écoutons.
Voilà, je voulais juste vous donner un témoignage. Je vous remercie avec aide que vous donnez à tous les Africains pour avoir une solution pour les régularisations. C'est très important.
Merci Youssouf.
Voilà, moi j'étais en 2009, j'étais en signé en résidence. Bon, ils m'ont mis ça parce que j'étais en centre de rétention, je suis sorti, ils m'ont mis ça. Il faut que j'y passe à la préfecture tous les matins pendant 2 semaines pour aller signer un papier.
Ah oui, tous les matins. Donc,
je suis sorti, j'ai demandé à un ami, j'ai dit, est-ce que je dois aller signer ces papiers ou pas? L'ami m'a conseillé d'aller signer ces papiers. Donc, j'ai parti tous les matins signer ces papiers-là pendant 2 semaines finalement. Les policiers même sont devenus mes amis, sauf celui que je trouve là-bas que j'ai pas trouvé. Il appelle là-haut. J'appelle un coup de fil là-haut d'abord. Est-ce qu'il y a un billet d'avion qui est prêt ou pas? Voilà. Moi, à mon avis, c'est ça. Ça, c'est mon imagination. Donc, je donne un conseil à tout le monde. Dès que vous avez ce fameux papier à signer 2 semaines, allez-y le signer. Sinon, ça va se retourner contre vous parce que la preuve, les jours qu'ils m'ont régularisé, parce que mon passeport était là-bas, ils m'ont rendu. C'est là que j'ai compris que si j'étais allé pas signer ces papiers-là pendant 2 semaines, voilà, ça va tomber sur moi à ces jours-là.
C'est vrai. Bah, merci pour le témoignage. Merci beaucoup
merci
pour le témoignage,
beaucoup
Youssouf.
Pour votre témoignage.
Merci beaucoup. Après, juste Youssouf, pour dire que la loi a changé maintenant, ça ne peut pas dépasser 3 présentations hebdomadaires. Avant, c'était un peu plus comme vous, ce qui vous concernait, mais maintenant, la loi a changé. On ne peut pas vous demander de venir, quand vous êtes assigné à résidence, de vous présenter, par exemple, plus de 3 fois par semaine, sauf s'il y a un motif spécial.
Ouais.
Mais néanmoins, la loi a évolué. Mais même cette évolution, c'est un peu lourd parce que se présenter tous les jours, certaines personnes décident volontairement de ne pas y aller. Parce que y aller, ça veut dire que quelque part, vous acceptez plus ou moins que la procédure d'éloignement se prépare. Il y a des gens, ils ne sont pas prêts du tout à retourner à Yopougon. Ils préfèrent rester ici.
Et donc, c'est un choix. Voilà, justement, avant d'enchaîner avec nos auditeurs, à Lutal, on rappelle que nous écoutons à Abidjan, hein, sur 91.1 Afrique. Africa Radio. L'émission, c'est Le Droit et nous. J'ai la question de Yolande qui nous écoute depuis Rouen. Elle dit ceci, hein, je veux faire venir légalement ma sœur qui est en Côte d'Ivoire pour qu'elle m'aide à garder mes enfants et les aider pour leurs devoirs et pour certaines tâches ménagères. Existe-t-il des possibilités de la faire venir en France par le regroupement familial, bien qu'elle soit majeure?
Voilà. Question très intéressante.
Question de Yolande.
Bonjour Côte d'Ivoire. Bonjour Abidjan. Donc Yolande est ici, mais c'est pour une personne qui est là-bas.
Ouais.
Mais néanmoins, Phil, avant de traiter cette question, on devrait quand même évacuer définitivement la question première qu'on n'a pas évacuée. On risque de revenir après dessus et on va continuer. Il faudra qu'on bloque carrément la question des droits. J'avais commencé à développer certains éléments avant de répondre à la question du premier auditeur. On va revenir sur cette question de Yolande parce que ça peut intéresser beaucoup de personnes qui veulent savoir est-ce qu'il y a des moyens légaux pour faire venir un membre de leur famille. Mmh. Et par le regroupement familial, en l'occurrence, si la personne est majeure, d'autres personnes vont passer par le système d'aide. Donc, si on peut éviter cela, mieux vaut passer par la voie légale. Donc, pour terminer sur le premier propos, avant de revenir sur la question des auditeurs et sur la question de Yolande, par rapport à l'OQTF, les droits que vous avez ici, c'est très important aussi de le noter, que quand vous êtes père ou mère d'un enfant français, vous le savez, on peut déposer un titre de séjour. Même si on ne vous donne pas le titre de séjour, on ne peut pas vous éloigner. Ça veut dire que c'est une catégorie d'étrangers qu'on appelle inexpulsable. Parfois, on vous refuse le titre parce qu'on estime que vous ne remplissez pas les conditions du code civil. En l'occurrence, l'article L371-1 et suivant, qui dit que les deux parents doivent concourir à l'entretien et à l'éducation des enfants. C'est une condition sine qua non pour que le parent étranger puisse bénéficier d'un titre de séjour au regard de sa filiation avec l'enfant français. Mais si vous ne remplissez pas cette condition et que vous déterminez quand même que vous êtes père de cet enfant français-là, et que vous êtes quand même présent au niveau personnel, au niveau émotionnel, on ne peut pas vous éloigner. Vous êtes protégé contre l'éloignement. Aussi, si vous êtes marié depuis 3 ans avec un conjoint de nationalité française et que votre vie commune est effective et affective, on ne peut pas vous éloigner. Même si vous êtes en procédure, en cas de contrôle, il faut brandir cela que vous êtes marié et que votre vie commune a duré au moins pendant 3 ans. Quelque chose d'important qui est assez subtil aussi. L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans et qui vit en état de polygamie, qui ne vit pas en état de polygamie plutôt, qui est marié au moins pendant 3 ans avec un autre étranger qui vit ici depuis l'âge de 13 ans, ne peut pas être éloigné. Ça, on ne vous le dit pas souvent, mais ça arrive. Ça veut dire que, par exemple, je donne M. Phil est marié à Madame X, qui est en France depuis l'âge de 13 ans.
Oui.
Voilà, comme la personne dont on a dit tout à l'heure, qui posait la question de la nationalité, qui est là depuis 7 ans. Cette femme-là, depuis 7 ans, si quelqu'un se marie à cette femme et que cette personne est là depuis 3 ans, on ne peut pas l'éloigner.
Oui.
Quelle soit la situation, on ne peut pas l'éloigner. Donc, c'est des hypothèses qu'il faut savoir qui sont assez subtiles, mais qui peuvent concerner certaines familles sans pour autant qu'on vous le dise parce que c'est assez délicat. On nous dit que les choses un peu générales. Autant aussi, pour l'étranger qui a une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle qui est délivrée par un organisme français et dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 20%. Ça arrive à beaucoup d'étrangers. Vous travaillez sans papier, vous avez un accident de travail. Et il a été décidé carrément par les organismes compétents que votre taux d'incapacité est supérieur ou égal à 20% et que, par conséquent, on vous doit une rente. Parfois, vous l'encaissez, vous demandez un titre de séjour, alors qu'on ne peut pas vous éloigner. De ce seul fait, vous avez droit à un titre de séjour. N'allez pas mettre votre doigt dans la machine là, quand vous êtes menuisier pour couper ça, pour créer l'accident. Ouais. Mais néanmoins, il faut savoir que c'est une protection que vous donne la loi. Il en est de même de l'étranger qui est en France, qui, en raison de son état de santé, comme l'a dit l'article L313-11-11e du Code des étrangers, ne peut pas être éloigné parce qu'il ne peut pas bénéficier d'un soin ou bien de soins appropriés dans son pays d'origine. Il faut dire que la loi a évolué, on vous le rappelle, que le fait que dans votre pays, il y ait un plateau médical susceptible de vous donner ces soins-là, ne suffit pas qu'on vous refuse le titre de séjour. Or, l'OFI a tendance à le dire de plus en plus. Donc ça, c'est un élément assez important, on ne peut pas vous éloigner de ce seul fait.
Et on va donner la parole à Violette, est-ce qu'elle est là, Violette? Bonjour.
Oui, bonjour monsieur, bonjour Phil.
Bonjour Violette, bonjour, Violette. Oui. Nous vous écoutons.
Oui, je rappelle, j'ai besoin de deux informations, ce qui m'est arrivé à moi, c'est pas pour quelqu'un d'autre.
Allez-y.
Moi je vis en France depuis plus de 10 ans, je travaille, donc je suis chef d'entreprise et tout. J'ai ma mère qui est au pays, donc je suis allée l'année dernière pour aller la chercher, pour qu'elle vienne en France, pour voir au moins où nous y sommes. Parce que ma mère, elle désire pas venir en France, c'est pas son truc, c'est le type de maman qui aime bien aller au marché tous les jours.
Elle est bien dans son pays, hein.
Elle est bien, franchement, elle ne veut même pas venir. Mais pour les petits-enfants, on a voulu qu'elle vienne parce qu'on avait un événement familial. On a voulu qu'elle assiste. Je suis allée au pays, j'ai rempli tout ce qu'il fallait, j'ai tout donné. Moi-même, je suis allé déposer le dossier. J'ai pris le rendez-vous.
Mais vous avez quoi comme, madame? Vous avez quoi comme, oui, comme document de séjour? Nationalité, outil de séjour, outil de résident?
Non, j'ai une carte de résident. Mes enfants sont français.
D'accord.
Donc, je suis allée, j'ai déposé tout ce qu'il fallait. Donc, au retour, on me donne une réponse. La réponse qu'on m'a donnée, on m'a donné une réponse négative. J'ai fait un recours ici à Nantes, au niveau de Nantes. La réponse concluante qu'on me donne, je vous épargne tout. Les capacités de la maman à venir en France pour le retour à l'étranger n'est pas possible. Pour une simple raison, c'est que l'enfant, eh bien, elle n'a pas de, elle n'a rien qui la retient au pays. En fait, il n'y a rien qui la retient au pays, mais ici en France, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir rester. Donc, c'est une dérive de visa. En conclusion, dérive de visa.
Mmh. D'accord.
Voilà. Mmh. On m'a donné cette réponse-là. Donc, on a pris chez nous. Elle n'a pas pu partir. Je suis allée au tribunal à Nantes. J'ai fait les 1 heure de procès. Bon, j'ai laissé tomber. J'ai compris que c'était qu'elle ne vienne pas. J'ai laissé tomber. Et moi-même, personnellement, j'ai effectué par rapport à mes enfants, j'ai fait une demande de naturalisation. Ils m'ont répondu à moi. Vous ne savez pas vous exprimer en français. Vous ne connaissez pas le nom du Premier ministre. Monsieur Aliou,
oui.
Excusez-moi, hein. Oui. J'ai un BTS en comptabilité et gestion. J'ai une licence en droit. Je suis chef d'entreprise depuis 6 ans et j'ai 4 salariés. Je ne sais pas si c'est une insulte morale.
Violette. Allez-y, Violette, oui. Ça, c'est intéressant, parce qu'on va revenir sur ce qu'elle vient de nous dire. Oui, oui.
Alors, il nous reste 3 minutes d'émission, hein, rapidement.
Oui, alors allons-y, Violette.
On va répondre.
Oui. J'ai terminé. Je vous laisse me répondre.
Merci beaucoup, Violette. Alors, Aliou, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette situation?
Donc, il y a son expression finale qui m'a un peu fait rire. Effectivement, ouais. C'est vrai qu'on peut, l'avoir perçu ainsi. Je l'aurais quand même perçu ainsi parce que, déjà, vous êtes francophone. La loi dit que quand on est francophone et que dans votre pays d'origine, il y a au moins une des langues officielles qui est le français. Et que vous avez été scolarisé au moins pendant 5 ans, même l'école primaire, ça veut dire que la condition de l'assimilation linguistique, elle est acquise.
Direct.
Vous comprenez, ça veut dire, le délai de stage ne vous est pas concerné les 5 ans. Vous pouvez demander votre nationalité à partir du moment où la période de référence de 12 mois est là et que vous justifiez que vous avez des revenus. Mieux encore, la loi dit que quand vous êtes francophone et que vous avez un bac plus 2, je ne parle même pas de le niveau de langue, la condition de stage n'existe pas. Qui peut le plus ou le moins. Ça veut dire que c'est une aberration. Je ne sais pas, la décision qu'on vous a donnée est une vraie aberration.
Voilà pourquoi nous avons rigolé.
C'est pour ça qu'on a rigolé, effectivement, c'est pourquoi elle-même qu'elle rigole. Mais par contre, là où je peux me poser des questions, est-ce que vous êtes préparé à l'entretien d'assimilation? Parce que maintenant, au regard de la loi, l'entretien sera calé avec votre niveau. Plus vous êtes instruit ou instruite, plus on vous demandera des questions. Ma tante qui vend du maïs chaud à Barbès, on va lui demander qui est le nom du président de la République, des choses comme ça. Mais vous, ils sont en droit de vous demander beaucoup de choses. On va vous demander, par exemple, de citer 4 cours d'eau en France, de vous demander quels sont les derniers 3... Je vais terminer juste, s'il vous plaît, Yolande. De vous demander quels sont les 3 derniers présidents. Mais si c'est vrai que vous ne connaissez pas le nom du Premier ministre français, moi-même, je ne vous le donnerai pas à journée, je vous le donnerai un rejet. C'est assez grave quand même. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous ne connaissez pas le nom de M. Edouard Philippe, là, je vous ramène à Yopougon, moi, direct.
Non, mais Aliou, il faut laisser nos habitants de Yopougon tranquille.
Non, mais Yolande, elle dit tout, mais elle ne connaît pas le nom du Premier ministre quand même.
Yolande est de Douala ou de Yaoundé, donc.
Voilà. J'ai juste répondu dans le truc, je dis, franchement, les informations qui sont médiatisées du 1er au 31, c'est la seule chose qu'il ne faut pas dire qu'on ne connaît pas.
Ouais.
Bon, on va revenir sur cette question par rapport à l'entretien d'assimilation, parce que beaucoup de gens sous-estiment cela et que c'est un motif de beaucoup de rejet et d'ajournement. Mais on va y revenir. On va même peut-être faire un atelier en direct de préparation de l'entretien d'assimilation.
Je vous jure que je l'ai fait, j'ai tout répondu. Et je vous dis qu'au test de langue que je n'avais pas le droit de faire, je l'ai fait. J'étais excellent, c'était pas bon ou à peu près.
Voilà, merci beaucoup Violette, dans la bonne humeur en tout cas ce matin sur Africa Radio.
Violette.
On va rappeler la conférence très rapidement le 7 mars prochain, donc le 7 mars 2020. Si vous voulez participer à cette conférence, vous envoyez un SMS, c'est très important. Donc toute inscription par SMS au 06 16 05 45 51. Je reprends 06 16 05 05 45 51. Et la semaine prochaine, on reviendra sur la question de Yolande, hein, de Yolande depuis Rouen, hein, qui nous a envoyé donc ce message. Et vous également, donc n'hésitez surtout pas à nous faire parvenir vos messages ou appeler au standard d'Africa Radio.
Et n'hésitez pas d'envoyer les SMS pour l'inscription en mentionnant Africa Radio.
Merci
à vous. Nos priorités, nos auditeurs, merci à vous, merci à Phil.